Merci d'être avec nous sur France Inter, c'est le 6-9 de l'été et il est tout juste 7h. Le journal Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Mariam, la fin du Tour de France hier soir aux Champs-Élysées, victoire historique sur ce tour d'Egan Bernal, jeune Colombien de 22 ans, le héros français Julian Alaphilippe a été chaudement applaudi, un tour qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, c'est ce que nous racontera Fanny Lechevestrier. Les autres titres, Mariam ?
Une fusillade a fait 3 morts dans le Var à Ollioules. Il s'agirait d'un règlement de compte. On entendra le coup de colère du maire dans ce journal. Le principal opposant russe, Alexei Navalny, aurait-il été victime d'un empoisonnement en prison ? En tout cas, il en présente les symptômes, selon son médecin et ses proches. Correspondance à Moscou dans un instant. Enfin, nous irons au musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcien, qui a trouvé la solution pour attirer le jeune public. Une visite sous forme de jeu.
Les invités de ce 6-9 de l'été à 8h-10, le neuroscientifique Sébastien Boller, en ce jour du dépassement. Et oui, la population mondiale a consommé et épuisé toutes les ressources que la Terre peut produire en un an. 8h20, le grand entretien avec le politologue Marc Lazare. Question sur la fragilité de la coalition gouvernementale en Italie. Et puis question aussi sur les styles politiques de Boris Johnson et Donald Trump. Vos questions pour Marc Lazare au 01 45 24 7000. Allez-y, le standard est déjà à votre disposition.
France Inter.
Les Champs-Élysées aux couleurs jaune, bleu et rouge. Les Champs-Élysées aux couleurs de la Colombie hier soir pour l'arrivée du Tour de France. Une dernière étape carte postale. Sans véritable enjeu, la victoire finale était déjà signée. C'est le Colombien Egan Bernal qui a remporté ce 106e Tour de France. Une victoire historique. C'est la première fois qu'un Colombien s'impose dans la course cycliste. À 22 ans, il est aussi le plus jeune vainqueur du Tour depuis 1909. Cette année, le Tour a passionné les Français. Les coureurs français ont fait rêver et vibrer beaucoup de monde cette année, Fanny Lechevestrier.
C'était bien, c'était chouette, non pas chez Lorette, mais à bicyclette sur les routes du Tour. 3 semaines de folie, marquées par des rebondissements toujours. Un Français qui passe 14 jours en jaune, l'abandon d'un autre à en pleurer, mais aussi des attaques à tout va qui ont redonné vie à l'épopée du Tour, même un peloton exténué en redemande.
Voilà, c'est vrai que cette année, on a eu plaisir à retrouver beaucoup de monde sur le bord des routes.
Il y a eu du spectacle du début à la fin. C'est vraiment pour être chauvin, mais c'est les Français qui ont fait le spectacle.
Super Tour de France tout court, je pense que tout le monde s'est régalé, nous coureurs et puis tous les spectateurs.
Julian, ça a été le dynamiteur de ce Tour de France et l'étincelle qui a tout déclenché.
Julian Alaphilippe, justement, lui non plus n'est pas prêt d'oublier ce tour, fêté comme une rockstar. Faisons le show comme on n'avait pas vu depuis des années sur les Champs-Élysées.
Autant avoir donné du bonheur aux gens. C'est 3 semaines que je suis pas prêt d'oublier. J'ai l'impression d'avoir gagné le tour.
Et si au bout de la folie, au bout du chaos, c'est toujours l'équipe Ineos qui gagne avec une 7e victoire en 8 ans. Pour la première fois depuis des années, beaucoup ont retrouvé la magie du tour, tout ce qui en fait une course unique et qui vous donne déjà envie d'être un an plus tard.
Eh oui, l'année prochaine, le rendez-vous est donné à Nice le 27 juin 2020. Un nouveau record en athlétisme, 52 secondes et 20 centièmes aux 400 mètres haies. Performance de la championne olympique américaine Dalila Muhammad la nuit dernière lors des championnats des États-Unis d'athlétisme dans l'Iowa. Elle bat de 14 centièmes le précédent record qui date de 2003.
Il est 7h04, Mariam El Kurdi. Le constat de l'ONG WWF est alarmant.
Oui, à partir d'aujourd'hui, la population mondiale aura consommé la totalité des ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Si tout le monde vivait comme les Français, il faudrait 2,7 planètes pour subvenir aux besoins actuels de l'humanité. Ce jour dit du dépassement arrive plus tôt dans l'année à mesure que le temps passe. En 20 ans, cette date a d'ailleurs avancé de 2 mois, selon l'ONG de défense de l'environnement. Nous avons pêché plus de poissons, abattu plus d'arbres et cultivé plus de terres que ce que la nature peut nous offrir au cours d'une année. Et la surconsommation des ressources naturelles a des effets sur la planète. Les climatologues nous ont alertés sur le lien entre le réchauffement climatique et les épisodes caniculaires exceptionnels qu'on vient de vivre en France. Conséquence aujourd'hui, des forêts qui sèchent. Comment adapter les forêts françaises au changement climatique? C'est une course contre la montre pour les forestiers. Sandy Dauphin l'a constaté dans l'un des poumons verts de l'Île-de-France, la forêt de Fontainebleau.
Dans ce sentier de la forêt de Fontainebleau, en plein été, les feuilles mortes se ramassent déjà à la pelle.
Là, pour le hêtre, c'est assez surprenant quand même.
Il sèche sur pied.
Jean-François Dott, spécialiste des forêts et du climat à l'Institut national de recherche agronomique.
Manifestement, le fait qu'il sèche en pleine saison comme ça, alors qu'il est dans son habitat préféré, ça indique qu'on a franchi un seuil dans le niveau de sécheresse qui lui est imposé.
Avec les canicules à répétition, le hêtre est condamné à disparaître ici.
Le hêtre aura d'autres endroits en France où il va être florissant, plutôt en altitude, sur des versants nord, mais sur des sols comme ici, secs, et avec un climat qui va devenir méditerranéen. Il va y avoir beaucoup d'avenir pour les chênes et les pins, parce que c'est des espèces qui se plaisent dans ces climats-là.
Mais les arbres ne pourront pas s'adapter tout seuls au réchauffement climatique, car il est trop rapide, explique Brigitte Muche, responsable du conservatoire génétique à l'Office national des forêts.
Les arbres, il y a 12 000 ans, se sont adaptés au réchauffement climatique. Ils ont progressé de l'Espagne vers la Suède, mais ils faisaient au maximum 300 mètres par an. Actuellement, ce n'est pas ce qu'on leur demande avec le réchauffement climatique. C'est 10 fois plus. Et ça, ils ne sont pas dans les capacités de le faire.
Les forestiers vont donc forcer cette migration en plantant dans les forêts du nord de la France des arbres venus du sud, habitués aux fortes chaleurs.
Un reportage Sandy Dauphin pour France Inter. 3 personnes ont été tuées dans une fusillade dans le Var hier soir. Ça s'est passé près de Toulon, à Olioul. Il s'agirait d'un règlement de compte, selon le maire de la commune, Robert Beneventi. Toujours selon le maire d'Olioul, la fusillade a fait une victime collatérale, une femme qui passait par là par hasard. Son mari aurait été gravement blessé et se dit à la fois attristé et en colère.
Je me mets à la place du mari qui probablement a survécu, je l'espère en tout cas. Je me mets à la place de ses proches. Pour le reste, je suis en colère, effectivement. Je suis en colère parce que je ne cesse de réclamer plus de contrôle, plus de police. C'est du domaine régalien de l'État. Nous avons notre police municipale, mais nous ne pouvons pas les exposer à des voyous pareils. Et donc, nous demandons plus de moyens et surtout des sanctions derrière. Je suis surtout atterré par ce qui est arrivé à ce couple qui passait par là. Ça, c'est affreux.
Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, réagit sur Twitter. Il affirme que tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier et interpeller les auteurs de cette fusillade. Au cœur de l'été, le gouvernement n'est pas en vacances. Il vient de publier dans le journal officiel les ordonnances sur les nouvelles règles de l'assurance chômage qui entrent en vigueur en novembre. Il faudra avoir travaillé 6 mois contre 4 pour bénéficier de l'assurance chômage, et ce sur une période de 24 mois et non plus 28. Les plus précaires risquent d'être touchés. Pour ceux qui enchaînent les petits contrats ou qui sont intérimaires, les règles changent. Le montant des indemnités sera désormais calculé sur l'ensemble des jours ouvrables et non pas seulement en fonction des jours effectivement travaillés. Combien devez-vous payer d'impôts cette année? C'est à partir d'aujourd'hui que vous allez le savoir. Si vous êtes imposable et si vous avez déclaré vos revenus en ligne, vous pouvez vous rendre dès aujourd'hui sur votre espace personnel, sur l'espace qui est sur le site impots.gouv.fr. Vous saurez alors quelle somme précise vous devez régler cette année. La version papier n'arrivera qu'à partir du 5 août dans les boîtes aux lettres pour les contribuables ayant déclaré leurs revenus par écrit. Mais ce petit rituel pourrait bientôt changer. Conséquence du passage au prélèvement à la source depuis le début de l'année, Raphaël Ebenstein.
Simplification, c'est le maître mot de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics a récemment promis que 12 millions de foyers fiscaux ne seraient plus tenus d'envoyer de déclaration de revenus l'an prochain. Tous ceux en fait qui n'ont rien eu à modifier cette année à la déclaration pré-remplie envoyée par l'administration. Et la mesure pourrait être étendue à l'ensemble des contribuables d'ici 3 ou 4 ans. Cela tient évidemment au passage au prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, une réforme très bien acceptée, même appréciée par les Français, alors qu'elle suscitait quelques doutes avant sa mise en application. Mais au-delà de la simplification promise par Gérald Darmanin pour les contribuables, cela représente aussi, voire surtout, une économie substantielle pour l'État. C'est d'ailleurs dans les services de Bercy que vont se faire la quasi-totalité des 2000 suppressions de postes de fonctionnaires annoncées pour 2020.
Les tensions toujours vives à Hong Kong. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues de nouveau dans les rues pour manifester contre le gouvernement de Pékin. Des affrontements ont éclaté près du bureau de liaison chinois, le symbole de la présence de Pékin dans le territoire. Une vingtaine de personnes ont été blessées, des dizaines de personnes ont été arrêtées.
Il est 7h09. Mariam, des manifestations monstres également en Russie ce week-end.
Oui, plus de 1000 personnes arrêtées à Moscou, l'un des plus importants mouvements de répression de ces dernières années. Les manifestants dénoncent le rejet des candidatures d'opposants pour des élections locales prévues en septembre. Une grande figure de l'opposition est en prison, Alexei Navalny. Il est brusquement tombé malade dans sa cellule. Il aurait été victime d'une brusque allergie, mais ses proches et ses médecins, qui n'ont pas été autorisés à le voir en prison, dénoncent des mauvais traitements. Ils évoquent aussi la possibilité d'un empoisonnement. Léo Vidal-Giraud.
Alexei Navalny ne fait pas partie des personnes arrêtées ce samedi pendant les manifestations qui ont secoué la capitale russe. Presque une anomalie pour cet opposant habitué des détentions administratives, mais l'explication est en réalité très simple. Ce samedi, Navalny était déjà en prison. Arrêté mercredi dernier, il avait aussitôt été condamné à 30 jours de détention pour organisation d'une manifestation non autorisée. Hier dans l'après-midi, la nouvelle de son hospitalisation s'est répandue comme une traînée de poudre dans les médias russes indépendants. Alexei Navalny aurait été saisi dans sa cellule par une violente réaction allergique, les yeux gonflés, le visage couvert de plaques rouges. En 43 ans, il n'a pourtant jamais souffert de la moindre allergie, affirment plusieurs de ses proches, qui s'interrogent sur les conditions de sa détention. Au vu des circonstances et de ses symptômes, on ne peut pas exclure un empoisonnement, affirment ses médecins. Ces derniers s'inquiètent en particulier pour ses yeux. Cette année, l'opposant a déjà dû être opéré en urgence après avoir subi une agression dans les rues de Moscou. Atteint au visage par une projection d'un liquide non identifié, il avait failli perdre la vue. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
En Californie, une fusillade a fait 3 morts. Elle a éclaté près d'une foire alimentaire à côté de San José. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des personnes fuyant les lieux alors que des coups de feu retentissent. Une douzaine de personnes seraient blessées. Un suspect a été arrêté. Motiver ses enfants pour aller au musée, c'est souvent un défi. Alors quand il s'agit d'un musée sur les deux guerres mondiales et sur celle de 1870, comment faire? Le musée Guerre et Paix en Ardennes, à Novion-Porcier, a peut-être trouvé une solution. L'établissement vient de lancer son Escape Game. Par groupe de 6 à 30, les visiteurs doivent résoudre des énigmes sur fond d'histoire de France. Alexandre Audabran a joué le jeu.
Notre histoire commence il y a près de 1000 ans.
Dans le musée dirigé par Marie-France de Vouges, on cherche la Sainte Lance rapportée de croisade par Godefroy de Bouillon.
Et donc, les participants au jeu vont devoir protéger la Sainte Lance pour sauver la paix. Et ils n'ont qu'une heure pour cette mission.
Attention, le chronomètre, ça peut déjà.
Pour ouvrir chacun des 6 cadenas du coffre qui renferme la Sainte Relique, il faut trouver les 6 codes.
4 et 2, 6.
L'intrigue est fictive, mais les personnages, les lieux et le contexte sont fidèles à l'histoire.
Radio Paris est allemand.
On fouille dans 6 décors, le quartier général allemand, l'atelier d'un peintre ou encore les services de renseignement à Londres.
Il y a carrément De Gaulle qui nous donne une mission.
Pour remplir les missions, on scrute les cartes d'état-major, on décrypte des messages codés ou on écoute Radio Londres.
La crise n'ira plus à nous.
Sur un poste authentique.
Tous les objets sont des objets d'époque. On a de l'artisanat tranché, on a un binoculaire allemand, début Seconde Guerre mondiale. On peut manipuler une visionneuse à plaque stéréoscopique et donc voir des photos d'époque en relief. Et nous avons donc une magnifique automobile Clément Bayard, construite dans les Ardennes. Déjà, rien que cet objet vaut le détour.
L'accès à l'Escape Game du musée Guerre et Paix est inclus dans le prix du billet d'entrée.
Avis aux visiteurs joueurs, les séances ont lieu tous les jours de 14h à 16h.
C'était le journal de Mariam El Kurdi. La circulation avec Pierre-Antoine Lefort. Pierre-Antoine au PC Mobilité. Le trafic est ralenti sur l'A1 en direction de Paris.
Oui, au niveau de la sortie 12, la sortie de Roy, c'est dans la Somme. Un accident s'est produit entre un fourgon et une voiture. Alors la circulation se fluidifie un petit peu, mais les opérations de dépannage sont toujours en cours. Elles peuvent être longues puisque le chargement du fourgon, des balles de linge, s'est déversé sur la chaussée. Il y a à peu près 7 km de bouchons. Vinci déconseille l'accès à l'autoroute par les échangeurs 12 et 13. Et puis sur le périphérique intérieur parisien, vous roulez pied sur l'embrayage de Porte de Bagnolet à Porte de Bercy. Vous mettez environ 9 minutes.